TFM, le mag. Le mag.
Hello tout le monde, c'est reparti pour un nouveau numéro du Mag du Tarn sur CFM. Et pour ce nouvel épisode, on n'a pas fini de découvrir tous les talents qui sont présents pour la 46e édition du festival Musique sur Ciel. Trois invités pour aujourd'hui dans le mag. Et pour l'heure, je reçois deux musiciens, dont un compositeur. On va commencer par Eric Maria Couturier, qui est violoncelliste, un violoncelliste de renommée internationale. Il est accompagné par son fidèle ami Yann Robin, compositeur en résidence pour cette 46e édition. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Oh, quel ton solennel pour commencer. Vous allez bien ?
Merveilleusement bien.
Bon, parfait. Eh bien, enchanté de vous rencontrer et bienvenue dans les studios de CFM. Alors, on va faire connaissance tout d'abord avec ce monsieur qui est à ma droite. Il s'appelle Eric Maria Couturier.
Oui, c'est moi. Je suis violoncelliste.
Voilà, violoncelliste, prodige. Hein. Et puis alors, surtout, il y a un truc que j'ai découvert sur vous. En fait, vous ne faites pas que de la musique classique, vous touchez un petit peu à tout. Ça passe par le jazz, vous avez travaillé avec un percussionniste japonais, il me semble, et en plus, vous aimez le métal. C'est possible, ça, de concilier le métal et la musique classique ?
J'aime le métal, j'aime le bois, j'aime le liquide, j'aime le solide. C'est vrai, je mange de tout, d'ailleurs, il faut cette matière par jour.
Ouais, ouais, ouais.
Et j'en consomme pas mal.
Ouais. Sinon, je parlais de musique métal, hein, mais c'est pas grave.
Oui, oui, non, on parle bien de la spiritualité acoustique. Bref, je m'égare. Non, parce que je voyais cordes 94.7. Donc moi, je pensais tout de suite au calibre de mes cordes. Parce que, voilà, selon le répertoire, que ce soit baroque, si c'est des cordes en boyau, elles sont définies par leur calibre. Uh-huh. Ou le classique, avec l'arrivée des cordes en métal, ou le contemporain. Où là, il faut aussi choisir son calibre et son matériel, son archet, ça. Le poids de son archet. Donc oui, il faut toucher en même temps tous les répertoires, mais il faut adapter le matériel au terrain.
D'accord. Et du coup, c'est pour ça que, par exemple, vous utilisez des violoncelles au son saturé.
Alors je dirais le violoncelle au son saturé, ça pourrait être, oui, une image. On va voir d'un côté la lutherie mm-hmm. contemporaine, qui soutient par les progrès de la lutherie jusqu'à aujourd'hui, qui sont phénoménaux. Mmh. Surtout depuis les 20 dernières années, et le langage de la musique contemporaine, qui est actuellement le langage utilisé depuis des décennies, qui est orienté vers un son avec une palette de sons qui est saturée. Mais ça, Yann en parlera beaucoup mieux que moi.
D'accord. En tout cas, c'est pas la première fois que vous venez à Cordes. Vous étiez l'année dernière ?
La première fois, non, c'est la deuxième fois.
Il va falloir acheter une maison bientôt, hein.
Oui, c'est déjà fait. J'ai appelé mon banquier. Là, on est.
Vous êtes en cours.
Très bien. Parce que les taux remontent. Alors voilà. Donc, les taux de métal, bien sûr.
Bon, ça marche. En tout cas, en attendant la réponse du banquier, si vous êtes là, Eric Maria Couturier, c'est parce que vous venez jouer du violoncelle, du coup, pour ce monsieur qui s'appelle Yann Robin. Il est compositeur en résidence pour cette 46e édition. Ça va, Yann Robin ? La discussion ne vous ennuie pas trop ?
Un petit peu. Je vais y participer un peu avec vous, du coup ça sera beaucoup plus sympathique pour moi.
Ouais. Eh bien ouais, carrément, bienvenue dans notre Merci conversation beaucoup. À moi et Eric Maria Couturier. Alors, ce soir, il y a une création mondiale d'une œuvre que vous avez faite, si j'ai bien compris.
Oui, ouais. Ça s'appelle Draft 4, yes. Pour violoncelle amplifiée, qui est en fait la petite sœur en quelque sorte d'un concerto pour violoncelle et orchestre qu'Eric Maria a créé en octobre 2016 avec l'Orchestre National de Lille, un orchestre mm-hmm. Lequel j'étais en résidence pendant 3 années aussi, ça vient juste de se terminer. Je passe d'une résidence à une autre, c'est formidable.
C'est parfait.
C'est très très bien comme compositeur, parce que au lieu d'être tout seul, un électron libre comme ça dans la nature, finalement, on est entouré dans une structure et entouré de plein de personnes qui œuvrent, en tout cas qui vous aident à œuvrer pour votre propre musique. C'est formidable. Mm-hmm. Donc la création de ce soir, c'est comme je disais, c'est une espèce de petite sœur du concerto pour violoncelle. Alors, donc là, il y aura pas de gros orchestre, mais on a décidé avec Eric Maria, en réfléchissant un petit peu, d'amplifier mm-hmm. la chose. Mais amplifier, parce que de manière générale, je travaille beaucoup avec l'électronique. C'est la transformation du son en temps réel pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait une espèce d'extension, d'extrapolation du son et du geste instrumental. Mais là, j'avais pas du tout envie de transformer le son du violoncelle. Je voulais garder tel qu'il était pour essayer de capter les sonorités qui sont de l'ordre de l'inouï, qu'on a travaillé ensemble avec Eric Maria, une espèce d'aller-retour permanent entre instrumentiste flûtiste et compositeur, afin de, voilà, de rendre le son l'instrument tel qu'il est, mais amplifié, c'est-à-dire pour pouvoir faire en sorte que le public soit immergé dans le son du violoncelle. Mais il est amplifié d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs micros qui sont positionnés sur le violoncelle à des endroits géographiques très différents, et à chaque micro correspond une enceinte dans la salle, qui seront dans les chapelles de la salle. Il y aura 6, 8 enceintes et 2 subwoofers pour prendre un petit peu de grave. Et l'idée, c'est que quand la main gauche d'Eric Maria se déplace sur le violoncelle, il y aura une sensation de déplacement du son. Donc, en quelque sorte, le public se retrouve dans la caisse du violoncelle d'Eric Maria.
Oh là là.
C'est merveilleux.
Ah ben, c'est merveilleux.
On vous
je ne sais pas encore.
C'est bien parti.
Dans la caisse.
C'est bien parti. Dans ta caisse.
En tout cas, ça a l'air bien pyrotechnique. Hein. La musique classique évolue avec son temps. Quoi. C'est impressionnant. Enfin, au niveau du son, il y a un gros travail qui est fait. Enfin,
au niveau du travail sur le timbre, donc sur le son, le timbre, c'est la qualité du son. Hein. C'est là, ce que j'expliquais, c'est le timbre est pour le monde du sonore, ce que la couleur serait pour le monde du visuel, en quelque sorte, pour le résumer. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a, à mon sens, aucune barrière possible au niveau de l'imaginaire, parce qu'on vit dans un monde en fait, qui est extrêmement sonore. Il y a eu tout l'avènement de l'électronique depuis les années 70, plus les nouvelles technologies qui apportent énormément de choses au niveau de notre imaginaire, et notamment la musique électronique. Et après, nous, en tant que compositeurs, compositeur de musique classique, la continuité d'eux, on n'en reste pas aux choses que l'on appelait avant l'harmonie, la mélodie, ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on va travailler vraiment ce qui est le timbre, le son pur, et c'est sculpter cette chose-là. C'est-à-dire qu'on on ne se refuse rien, on s'autorise absolument tout, et il n'y a, ce que je disais, aucune barrière au niveau de l'imaginaire. Tout est possible, surtout avec
des
personnalités comme Eric Maria Couturier, qui sont moi, je l'appelle mon génie en général, parce que tout est possible.
Et c'est Aladdin, ouais.
Voilà. En fait, et finalement, si, il y a une barrière, c'est pas lui la barrière, c'est finalement les limites de l'imaginaire, avec des personnalités comme ça. Donc, le compositeur, oui, écrit sa musique, mais n'écrit pas sa musique seul dans son coin. Le compositeur a besoin de cette proximité avec l'interprète, mais en permanence avec Eric, on se connaît depuis 12, 15 ans, assez longtemps, et ça fait très très longtemps qu'on parle de ce projet a mûri. Mon langage évolue avec le temps. Lui, son approche de l'instrument change, évolue. Puis on s'est rencontrés là un bon moment pour faire ses créations. Et c'est bien parti pour la création de ce soir.
Oui, avec des essais plus ou moins réussis. J'avoue que quand on parle de métal, comme on est tous proches des styles de musique populaire, que ce soit le hard metal, etc., on voit bien l'utilisation pour l'amplification, l'utilisation des pédales de guitare, par exemple.
Ouais, pédales wah-wah, par exemple, et autres. Ouais.
Oui, ou alors j'ai beaucoup navigué dans des marques, la marque Svex, qui est spécialisée dans l'ultra-saturation, développement d'harmoniques, mais vraiment super aigu et super condensé. Mais finalement, après de nombreux essais, vraiment pendant un an, j'ai pas trouvé l'équivalent en rapport à l'acoustique pure, qui est beaucoup plus expressif en fait. Parce que on peut développer la puissance et le métal par l'amplification, mais ça reste que du synthétique en fait finalement. On est bloqué par le synthétique.
Disons qu'il y a un filtre via les pédales d'effet, ou même c'est pour ça que j'ai pas voulu du tout travailler avec l'électronique. C'est la même chose que cette question que soulève Eric Maria, qui était très intéressante. Finalement, quand on passe dans un effet, quand on passe dans une transformation, d'un seul coup, le son est typé et hyper connoté. Il passe dans ce filtre et c'est très difficile d'en sortir. Et finalement, le son acoustique pur, naturel, si j'ose dire, de l'instrument, est à peu près un million de fois plus riche que n'importe quelle pédale ou n'importe quel effet via l'électronique. Et pourtant, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé avec ça, mais dans un objectif très différent de celui-ci. Ce matin, quand on répétait encore la pièce, quand Eric Maria joue, on ne sait pas s'il y a de l'électronique ou pas. Il n'y en a pas, on le sait, mais on s'interroge en permanence, cette question-là.
Ouais, c'est une réponse de l'instrument. Je dirais que l'instrument est content, quelque part. Il y a un retour de l'acoustique, comme l'église sera contente de résonner d'une certaine façon, que ce soit un chant grégorien ou de ce qu'on lui propose avec cette musique-là. Ou si on est face à une matière morte, je dirais, la pédale ne sera pas contente, par exemple.
D'accord.
Elle sera juste passive.
Alors justement, on parle de tout ça en détail avec des mots. Je vous propose d'écouter un extrait pour plus ou moins voir ce que vous voulez dire. Alors ce n'est pas évidemment la création mondiale qui va jouer ce soir, puisque ce sera créé ce soir. On va écouter un extrait de Quarks, la pièce que vous avez composée, Yann Robin, en 2016 et qui a été créée en 2016. Exactement. Avec l'Orchestre National de Lille, avec Monsieur Éric Maria Couturier, s'il vous plaît, au violoncelle. Voilà, c'est juste pour avoir un petit aperçu de la façon dont vous composez, de votre style et de ce fameux son. Vous êtes dans Mad du Tarn, vous êtes sur CFM Radio, on écoute Quarks, la pièce écrite par Yann Robin, et on se retrouve juste après. Le Mac du Tarn se poursuit sur CFM. C'est un extrait de Quarks, une œuvre créée par Yann Robin, compositeur en résidence pour la 46e édition du festival Musique sur Ciel. Yann Robin, dites-moi tout. Ça me rappelle, moi, des musiques qui ont été, que j'ai entendues dans des films de Stanley Kubrick, par exemple.
Ah bon, Stanley Kubrick, c'est le Getty, notamment dans 2001, l'Odyssée d'espace.
Alors, moi, je ne connais pas le compositeur, mais
qui,
ouais,
qui
c'est
est
ça,
un
ouais.
immense compositeur dit de musique contemporaine de la deuxième moitié, on va dire, du XXe siècle, au même titre que, même génération que Pierre Boulez, que Yannis Xenakis, que Luciano Berio et tous ces gens-là.
Ouais.
Et donc, c'est Kubrick, en fait, qui, pour la petite histoire, mm-hmm. avait commandé la musique de 2001, l'Odyssée de l'espace, à un compositeur de musique de film.
Ouais.
Et finalement, l'autre avait écrit, mais Kubrick avait éliminé cette musique-là, avait pris celle de Ligeti en la découvrant, notamment Lux Aeterna pour un chœur mixte et, pour, et aussi un bout du Requiem, me semble-t-il, Alain. Intérieur. Donc après, est-ce que ma musique se rapporte à une musique de film ? Je ne sais pas. En tout cas, ça
m'a fait penser à ça.
Non, mais bien sûr. Ouais. C'est des commentaires que j'ai souvent à la fin des concerts. Je me rappelle aux États-Unis, il y avait à Seattle, l'orchestre de Seattle. À la fin du concert, il y avait quelqu'un qui voulait absolument me voir, m'a-t-on dit, le staff. Mm-hmm. Et finalement, cette jeune femme est venue me voir pour me parler de ma pièce, qui était une pièce de musique de film, d'après elle, et m'a raconté le film qu'elle aurait imaginé, en tout cas cette chose-là. Donc, c'est des choses qui reviennent souvent. Alors pourquoi, je ne sais pas. Peut-être parce qu'il y a dans les musiques de film des espèces d'emprunts, on va dire, à la musique dite contemporaine, mm-hmm. Dite d'aujourd'hui, pour créer une certaine forme de, j'aime pas trop ces mots-là, mais de, d'ambiance, de background, en tout cas, en rapport avec une action. Ouais. Mais alors après, je sais pas. Alors, l'extrait que vous avez choisi, c'est l'extrait. En plus, c'est une, comment dire, c'est une pièce qui dure 25 minutes.
Oui, oui, donc, c'est comme si, voilà. Plus de 2 minutes, hein,
voilà. Donc, c'est en plus c'est un moment très transitoire qui entre la, la deuxième et la troisième partie, qui est, comment dire, un instant de, d'équilibre, de pure transition et de pure, d'état intermédiaire, quelque part. Voilà, donc je sais pas, je peux pas répondre à votre question clairement, hein, parce que c'est savoir si c'est de la musique de film ou pas, ou si ça ressemble, je peux pas le dire.
Ah non,
en cas, elle est pas pensée en ce sens-là.
Oui, oui, après, j'en étais pas sûr, mais ouais. je voulais juste vous dire que ça m'a fait penser à, ben justement, vous parliez de 2001. C'était exactement ce site de musique à laquelle ça m'a fait penser. Alors après, je ne sais pas si vous voulez composer pour le cinéma, peut-être.
Alors, quand j'étais tout petit, il y a très longtemps, je rêvais de composer pour le cinéma. Et finalement, je me suis rendu compte que la liberté était beaucoup plus grande, était vraiment immense dans la musique dite de concert. Vous êtes totalement, totalement libre de faire ce que vous voulez. Et justement, j'avais passé un jour ou deux avec Alexandre Desplat à Rome, qui est un grand compositeur de musique de film. Et lui, il faisait ce jour-là de la musique de concert, mais c'était une des rares fois il le faisait. Et il me disait, moi, j'aimerais bien faire ce que tu fais parce que je m'en sentirais beaucoup plus libre. Parce que quand j'ai le directeur artistique sur mon dos pendant que je fais la musique de film, on me demande toujours de couper, de refaire. Il faut que ça soit extrêmement formaté, extrêmement calibré. Et dans, en quelque sorte, la liberté que l'on a avec notre imaginaire, notre imagination, ben, on la perd par rapport à la, on va dire, la temporalité imposée par le réalisateur via les images.
Eh oui. Effectivement, ouais. Mais bon, ça aurait pu. Après, bon, c'est libre à vous, effectivement. Yann Robin, je suis toujours avec vous, ainsi qu'avec Eric Maria Couturier. Il n'est pas encore parti. Il est bien sur CFM. Il est bien dans les studios de CFM. Oui. Et puis, on a notre invité de marque. Et oui, il s'agit de Christian Urbita. Bonjour Christian Urbita.
Bonjour.
Vous avez exercé le poste de président du Festival Musique Sociale pendant 20 ans, jusqu'en 2014 pour être exact. Alors, quand vous voyez comme ça des compositeurs comme Yann Robin, des musiciens comme Eric Maria Couturier, la musique classique n'a pas trop de soucis à se faire, ça s'enrichit d'année en année.
En tant que luthier.
Attention, vous allez vous faire gronder. Hein. Ils sont à côté encore, ils ne sont pas partis.
En fait, Christian nous empêche de rentrer dans son atelier, Eric, Maria et moi. Donc,
Il voulait savoir le bruit que fait un violon quand on y marche dessus. Donc je voulais pas. Non, je plaisante. Non, j'aimerais.
Il vous a perturbé. Hein.
Oui, il m'a perturbé. Ouais.
Ne vous laissez pas impressionner.
C'est important aussi que Maria Couturier joue sur un instrument contemporain. Parce qu'il y a un attrait, disons, pour les instruments anciens et tout et tout. Mm-hmm. Et les instruments contemporains, c'est bien aussi de les jouer. Parce que souvent, quand on est un créateur, on n'est pas à la bonne époque. C'est où les gens s'intéressent à nos créations avant ou après, mais pas quand on est vivant, souvent.
Ça arrive.
Et donc, c'est très bien qu'il joue sur un instrument moderne qui est fait par Franck Harvatin, un collègue que j'aime bien. Et donc, ça, c'est important. Mais après, bon, par rapport à cette musique, on sent qu'il... Il y a une évolution dans la musique. On peut comparer, par exemple, à l'époque baroque, quand Paganini est arrivé, les instruments ont été, enfin, surtout le violon, puisque Paganini était violoniste, a été modifié, en fait, pour jouer. Et c'était pas forcément pour le son, mais pour une question technique, puisqu'il y avait beaucoup plus de notes. Enfin. Et actuellement, c'est mon sentiment, le violon aurait besoin... Enfin, c'est compliqué, mais peut-être à s'adapter ou... Suivre l'évolution de la musique avec la facture instrumentale. Et ça commence par les compositeurs et les musiciens. S'il y a une demande, on peut... Eh bien... Et après, ça se mélange. Après, les luthiers peuvent aussi proposer des choses.
Et Eric Maria Couturier, qu'est-ce qu'il en pense, justement?
Que du bien.
De
Eh bien, oui, du rapport de tension entre les exigences musicales, donc les ordres du compositeur via la partition. Alors on appuie parfois beaucoup, jusqu'à la saturation, mais il n'y a pas qu'en musique contemporaine, en fait, en musique classique aussi, on se rend bien compte que les grands solistes ont une énergie de jeu incroyable et il leur faut des instruments de très grande qualité pour supporter, disons, l'énergie du geste, les impulsions du geste. Et quand on voit, par exemple, le quatuor Tana qui met aussi toute son énergie et tout leur cœur, on voit bien qu'il faut, par exemple, des archets et des mèches d'archets qui soient à la hauteur, comme, je dirais, des avions de chasse. Un avion de chasse qui s'écrase vite sur un porte-avions, il a besoin d'être sacrément costaud, et c'est le cas, en fait. Et nous, on a un petit peu ces phénomènes de transport, je dirais, horizontaux et verticaux. Le rapport entre le geste et l'instrument, c'est l'archet et le bras. Donc, moi, je compare souvent ça à des amortisseurs comme les voitures, où il y a vraiment un rôle, voilà, d'amortir le vertical de façon très, très, sans qu'il y ait de casse, en fait. Mm-hmm. Donc, c'est un peu bizarre comme comparaison, mais c'est un phénomène juste physique et mécanique.
Bah en tout cas, c'est plein de mystères. Hein. Moi, je me dis, mais si je viens ce soir, mais je vais assister à quoi ? J'ai envie vraiment d'en savoir plus.
Vous oui, venez Christian. Ce soir ?
Oui, mais je viens, je fais ce que je veux, Christian. Mais ça me donne envie de venir, en tout cas, parce que j'ai envie d'assister à ça et de voir un petit peu ce travail du son qui va être mis en place à travers cette œuvre, cette création mondiale. Composé par Yann Robin, qui est avec moi dans les studios de CFM pour le Mac du Tarn. Yann Robin, ouais, vous voulez rajouter quelque chose ?
Oui, je voudrais rajouter quelque chose par rapport à cette question-là. C'est-à-dire que toute la technique instrumentale, il y a une espèce de l'arrivée des super solistes, je pense à toute la période romantique, avec des virtuoses, Christian citait Paganini, mais il y a eu Franz Liszt, il y a eu Chopin, qui ont vraiment fait avancer la musique au travers de leur prouesse, en tout cas technique. Et aujourd'hui, on est vraiment encore là-dedans. C'est-à-dire qu'on peut aller encore beaucoup plus loin dans la technique instrumentale, non pas pour repousser la technique beaucoup encore plus loin que ce que je pourrais aller plus vite, ce genre de choses, mais je reviens à cette notion d'inouï dont j'en ai parlé au départ, pour essayer de trouver de nouveaux thèmes, nouvelles choses qu'on n'a encore jamais entendues, afin de défricher un nouveau territoire. Et afin donc de faire évoluer vraiment le langage. Hier, durant une conférence avec Quatuor Tana, on parlait justement de cette il y a une centaine d'années, un futuriste italien, Luigi Russolo, avait en 1913, pour être précis, en mars 1913, avait dit que c'était terminé. Maintenant, avec les instruments dits classiques, acoustiques, on ne pouvait plus aller plus loin. Un orchestre symphonique ne pouvait pas sonner plus que ce qu'il sonnait à ce jour-là.
Quelle année, juste
en 1913. Et dans ce même manifeste, en mars 1913 pour être précis.
Mais avant la création du Sacre.
Et voilà. Et en mai 1913, voilà. Il y a le Sacre est arrivé. Donc il est pendant deux mois, il avait plus ou moins pas raison, mais en tout cas il a pu croire en ce qu'il disait. Et le siècle qui vient de passer nous prouve encore qu'il y a eu des tas d'avancées, en tout cas au niveau du son, au niveau du timbre, grâce aussi à l'évolution des techniques instrumentales et grâce à l'évolution aussi de la lutherie. Parce que c'est, je pense qu'il y a ce qu'on appelle la chaîne de la création. Ce n'est pas le compositeur n'est pas seul. Il y a les interprètes, il y a les instruments, il y a les luthiers, il y a tous les gens qui sont autour qui permettent d'aller beaucoup plus loin. Donc à mon sens, tout ça, on est vraiment interdépendants les uns des autres. Alors la question de la lutherie, c'est une question qui est pour moi fondamentale aujourd'hui. Donc Christian l'a vu quand on a travaillé avec le Quatuor Tana, qu'ils ont joué ma pièce, où je leur demande beaucoup de choses. C'est-à-dire que moi, je ne me prive de rien. C'est-à-dire du moment où on a la possibilité de faire agir un instrumentiste hors, on va dire, des codes classiques, alors que ce sont des gens qui ont une maîtrise technique absolument parfaite de leurs instruments, je ne m'en prive pas. Berlioz disait lui-même, dans son traité d'orchestration et d'instrumentation, que quel que soit l'objet que l'on puisse mettre en résonance, qu'on puisse faire vibrer, avec lequel on peut produire un son, cet objet peut devenir musique. Donc un violon, un violoncelle, un alto, une contrebasse ou tous les autres instruments, on peut les utiliser de manière pas traditionnelle et de ce fait-là trouver de nouveaux chemins, nouvelles voies pour pouvoir ouvrir un petit peu le son et donc faire évoluer le langage et être peut-être dans des choses qui n'existent pas encore.
Vous êtes un véritable explorateur de la musique contemporaine, Yann Robin.
Nous sommes des
explorateurs. Avec Eric Maria.
Voilà. Sans eux, on ne peut pas.
Mais comme il ne disait rien depuis tout à l'heure et qu'il était sage, j'ai presque failli l'oublier, Eric Maria Couturier, alors qu'il est bel et bien là dans les studios de CFM. Et évidemment, il y a aussi Christian Urbita qui nous accompagne, qui a été président du Festival Musique sur Ciel pendant 20 ans. Yann Robin, compositeur en résidence, c'est pas que créer des œuvres à l'église Saint-Michel.
Quand on est compositeur en résidence, certes, il y a une création au Festival Musique sur Ciel, ce que je salue énormément, ce qu'on a pas toujours cette possibilité-là. Donc il y a une création, mais il y a des reprises d'œuvres. Ça, c'est formidable aussi, avec des interprètes que l'on connaît ou que l'on ne connaît pas. Et périphériquement à cette chose-là, il y a des actions comme des masterclass, des rencontres, il y a même des radios des fois. Et c'est...
Ouais.
Voilà, donc
comme CFM, par exemple.
Comme c'est par exemple. Comme CFM. Donc il y a vraiment, en cas de la part du Festival Musique sur Ciel, la chose est pensée parfaitement bien. C'est-à-dire que vous êtes présent à tous les niveaux de la vie du festival pendant la durée que vous passez, en tout cas, avec tout ça.
Et sur Orbita, vous êtes d'accord avec ça, je suppose?
Oui, bien sûr. Et c'est vrai qu'il ne faut pas chercher à comprendre cette musique, il faut la ressentir.
Ouais.
Parce qu'on est complètement perdu, il n'y a plus de repères de mélodie, de rythme. Il y en a, mais c'est autre chose. Donc c'est voilà, on parlera de ce sujet, de l'émotion dans la musique. Et c'est comme ça qu'il faut écouter la musique, toutes les musiques, mais contemporaines certainement.
Voilà, la création au service de l'émotion, donc c'est une rencontre autour de la création qui va se dérouler à 17h30 aujourd'hui à la mairie de Cordes-sur-Ciel. Et vous serez là, Christian Urbita, je suppose.
Bien sûr, oui.
Voilà, pour assister à... Oui, Yann Robin,
oui,
encore un dernier
mot. Oui, excusez-moi, je suis extrêmement bavard. Hein.
Mais je vous en prie, vous êtes là pour ça.
J'avais prévenu qu'une demi-heure ne suffirait pas. Non, c'est simplement pour dire une chose. Ce qu'il y a de formidable dans ce festival, c'est qu'il n'y a pas, en fait, de barrière du tout entre les différentes époques de la musique dite classique. Mm-hmm. C'est-à-dire que écouter une pièce, une œuvre de Schumann, écouter une œuvre de Ravel ou venir écouter une de mes créations, quoi, ces choses-là sont présentées de la même manière. Mmh. Et à mon sens, on doit écouter cette musique de la même manière. C'est pas parce que c'est une musique qui est faite aujourd'hui qu'elle est différente de ce que l'on faisait il y a 100 ans ou il y a 200 ans. Et là, à Musique sur Ciel, c'est évident, il y a cette proposition, cette même une espèce de militantisme autour de ça, où que ce soit un compositeur vivant, un compositeur qui est décédé il y a un certain nombre de décennies, oui. Nous sommes présentés et en tout cas consacrés de la même manière.
Yann Robin, Eric Maria Couturier, Christian Urbita, merci beaucoup d'être venus dans les studios de CFM. Le festival Musique sur Ciel, c'est pas terminé et loin de là. Et en plus, l'événement ce soir à l'église Saint-Michel à 20h30, c'est la création mondiale. Vous pouvez me rappeler l'œuvre exacte de cette création mondiale. Yann Robin, c'est la vôtre.
Le titre?
Oui.
Draft 4.
Draft 4, yes. Voilà, donc si vous voulez aller découvrir Draft 4, c'est une première mondiale, c'est à l'église Saint-Michel à 20h30 ce soir. Alors il y aura aussi Debussy et Shostakovich, ça c'est pour ceux qui sont décédés. Et Yann Robin, il est bien présent, il existe toujours.
On va essayer de tenir jusqu'à ce soir, oui.
Et voilà, ce serait bien. Voilà, le Mag du Tarn, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même fréquence. Belle journée à toutes et à tous.
CFM, le mag.